Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, bonsoir à tous, édition du jeudi 24 avril, chez Robin Dorsil à Washington, accompagné de Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, République centrafricaine, des ressortissants de Bouka appellent le gouvernement de transition à assurer la sécurité des populations de cette ville, prise cette semaine par des ex-Séléka.
Si ces personnalités restent en dehors de la ville, je pense que la population ne ressortira jamais. Il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de marché et ce serait très regrettable.
Le Conseil de sécurité de l'ONU menace de sanctions les responsables de massacres au Soudan du Sud. Israël réagit à l'accord interpalestinien par la suspension des négociations de paix. Barack Obama apporte un soutien ferme au Japon dans son litige territorial avec la Chine. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, la ville de Bouka dans le nord est toujours contrôlée par des combattants de Séléka. Aujourd'hui, les ressortissants de cette localité montent au créneau à Bangui. Ils demandent une action urgente du gouvernement et des forces internationales afin de protéger la population. Le point avec Idriss Fall.
Depuis hier, un calme précaire règne à Bouka. Les autorités locales, les religieux et les humanitaires ont été évacués vers Bossangoa à l'ouest. Le sous-préfet de Bouka, Jérôme Gouma, a dénoncé l'inaction des soldats de la MISCA et affirme que plusieurs personnes ont été tuées. La force africaine a confirmé l'occupation de la ville par des hommes armés, mais n'a pas donné de précision. À Bangui, Justin Gourna, président de l'association des ressortissants de Bouka, demande une action urgente du gouvernement et des forces internationales.
Parce que si ces personnalités restent en dehors de la ville, je pense que la population ne ressortira jamais. Il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de marché, et quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'avenir pour une ville. Et ce serait très regrettable.
Des milliers de personnes sont massées à la mission catholique de Bouka et sur d'autres site protégé par quelques 80 soldats camerounais et gabonais de la MISCA.
Des affrontements cette semaine entre des éleveurs nigérians, des habitants de villages frontaliers camerounais ont fait au moins 20 morts, les précisions de Timothée Donangmaï.
Des témoins rapportent que des centaines d'éleveurs peuls fuyant les conflits dans les états nigériens de Taraba et Benoué ont violemment réagi lorsque des agriculteurs locaux leur ont demandé de quitter les lieux. Wallan Richard, député camerounais local, affirme que les peuls ont pris la population locale par surprise mardi.
These guys are heavily armed, I repeat it.
Ces gens étaient armés, lourdement armés, je le répète. Ils ont incendié des écoles et des maisons et détruit des champs. C'est une troublante tendance. Selon le député Wallan, le nombre des victimes est probablement plus élevé. Les populations s'étant éparpillées de part et d'autre de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Il a appelé les autorités camerounaises à faire plus pour protéger les populations de sa circonscription électorale. Il ne s'agit pas du premier incident du genre dans cette région camerounaise entre éleveurs et agriculteurs. Suite à l'invasion du village camerounais de Bauro en 2012, les autorités camerounaises y ont créé un poste militaire.
Les membres du gouvernement malien ont signé un code d'éthique et de responsabilité. Ce document qui contient 14 commandements est considéré comme un contrat pour le renouveau. Le non-respect de ces engagements peut conduire à la sortie du gouvernement. Tous les ministres ont signé ce document hier en présence du Premier ministre Moussa Mara. Des précisions avec Kassim Traoré.
Les 14 engagements signés par les ministres portent sur la loyauté envers le président de la République et le gouvernement, le sens de l'État, l'amour de la patrie et agir conformément aux valeurs fondamentales de la nation malienne et de la République. Moussa Mara, Premier ministre.
Que tous les ministres, comme vous l'avez vu aujourd'hui, se sont engagés solennellement par leur signature à observer ces règles d'éthique et de déontologie et nous allons y veiller. Il ne s'agit pas seulement de signer un papier et de partir, mais nous allons faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens.
L'un des soucis souci majeur de ces documents est d'avoir une équipe et non des individualités dans le gouvernement.
Les ministres qui, en termes de leadership, représentent le plus haut niveau dans notre pays, puissent aussi inscrire leur action dans un cadre moral et que ce leadership puisse répondre aux attentes de nos populations. Et ensuite, en même temps, que l'équipe gouvernementale soit une équipe que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons au même rythme pour atteindre les mêmes résultats.
Ces 14 amendements signés par les ministres peuvent-ils permettre au Premier ministre Moussa Mara de réussir sa mission? Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU menace de sanctions les responsables de massacres au Soudan du Sud. Samantha Power, représentante des États-Unis à l'ONU, a appelé à des sanctions contre ceux qui ciblent des civils au Soudan du Sud. Un appel soutenu par l'ambassadeur français Gérard Haro. Lors de la réunion d'urgence du Conseil, les diplomates ont visionné les images de massacres perpétrés la semaine dernière à Bentiu.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud accuse les rebelles de Riek Machar d'avoir tué des centaines de personnes sur la base de leur origine ethnique après la prise de contrôle de la ville du 15 avril. Mais le porte-parole des rebelles a nié ces accusations et rejette la responsabilité sur les troupes gouvernementales.
D'autre part, le ministre de l'Information sud-soudanais a dit à la Voix de l'Amérique que le limogeage du chef de l'armée est une mise à la retraite ordinaire. Le général James Hothmay a été démis de ses fonctions hier soir sans explication officielle. Il est remplacé par le général Paul Malong qui commandait les troupes gouvernementales dans l'état de Jonglei. Le président Salva Kiir a également limogé le chef du renseignement, le général Mark Paul, remplacé par le général Marial Nojok.
Selon Human Rights Watch, les autorités kényanes n'ont pas enquêté correctement sur des attaques commises dans l'ouest du pays entre mars et juillet 2013. Dans un rapport publié ce jeudi, Human Rights Watch appelle le gouvernement de Nairobi à rouvrir l'enquête et à engager des poursuites contre les responsables. L'ONG a rassemblé des informations sur des attaques perpétrées par des bandes criminelles composées de jeunes gens armés dans 9 villages dans les comtés de Bouzia et Bungoma. Armés de machettes, de gourdins et de haches, les agresseurs avaient tué 10 personnes et gravement blessé plus de 150, rapporte Human Rights Watch.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le cabinet de sécurité israélien a tenu une réunion de 6 heures aujourd'hui et décidé de suspendre les négociations avec les Palestiniens. Telle est, selon les médias israéliens, sa réponse à l'annonce d'un plan de partage du pouvoir entre le Hamas et l'Organisation de libération de la Palestine. Idrissa Seloudia.
Israël imposera des sanctions contre l'autorité palestinienne, toujours selon les mêmes sources. Auparavant, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait lui-même vivement critiqué l'accord. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui représente le Fatah, avait dit Netanyahou, complique les pourparlers actuels de paix.
So instead of moving into peace with Israel, he's moving into peace with Hamas.
Plutôt que de s'acheminer vers la paix avec Israël, il s'achemine vers la paix avec Hamas. Il doit choisir. Veut-il la paix avec Hamas ou la paix avec Israël? On ne peut pas avoir les deux. Pour le premier ministre israélien, Hamas est une organisation terroriste meurtrière qui appelle à la destruction d'Israël. Dès lors, il voit mal comment son pays pourrait négocier avec un gouvernement qui ne reconnaît pas son droit à l'existence.
Les combats entre les forces ukrainiennes et les militants pro-russes dans l'est de l'Ukraine ont coûté la vie à au moins 5 militants. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de crime le recours à la force par l'armée ukrainienne. Camille Gros-Didier.
Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, 5 insurgés pro-russes ont été tués et 3 barrages détruits dans la ville de Sloviansk. Toujours, selon les autorités ukrainiennes, les manifestants pro-russes ont été chassés de la mairie de Mariupol et à Artemivsk. Un raid des séparatistes contre une base militaire a été repoussé. Lors d'un forum à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a déclaré « Si le régime actuel à Kiev a vraiment commencé à utiliser l'armée contre la population, c'est un crime très grave contre son propre peuple ». Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, a annoncé de nouvelles manœuvres militaires le long de la frontière avec l'Ukraine. Et s'exprimant à Tokyo, première étape d'une tournée en Asie, le président Barack Obama a accusé la Russie de ne pas respecter l'accord de Genève et il a brandi la menace de nouvelles sanctions.
Fin ce soir de la visite de Barack Obama au Japon. Un dîner d'État a été donné en son honneur par l'empereur Akihito. Le président américain a profité de son séjour dans l'archipel pour évoquer la situation en Corée du Nord. Un peu plus tôt, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre Shinzo Abe, M. Obama a d'abord rappelé que les îles Senkaku étaient couvertes par le traité de défense États-Unis-Japon. Ces îles sont l'objet de tensions avec la Chine, qui en invoque la souveraineté.
Oui, le président américain a aussi tendu la main à Pékin dans la crise nord-coréenne. M. Obama a estimé capital que la Chine pèse de tout son poids sur Pyongyang, reconnaissant ouvertement le caractère incontournable de Pékin dans ce dossier. Barack Obama s'envolera vendredi pour Séoul. Il devrait, là encore, rassurer la Corée du Sud sur le soutien américain face aux ambitions nucléaires de son voisin.
Le secrétaire général de l'ONU a demandé au Conseil de sécurité de prendre des mesures pour faire face à ce qu'il appelle des violations flagrantes du droit international en Syrie. Dans un nouveau rapport, Ban Ki-moon accuse le gouvernement de Bachar al-Assad, aussi bien que les combattants rebelles, de n'avoir pas permis l'acheminement de l'aide humanitaire, telle que stipulée par une résolution adoptée en février par le Conseil de sécurité. Des millions de personnes sont actuellement privées d'assistance en Syrie, où la guerre a déjà fait plus de 150 000 morts.
En Afghanistan, la commission électorale a annoncé les résultats partiels de la présidentielle du 5 avril. L'ex-ministre des Affaires étrangères, Abdullah Abdullah, est toujours en tête avec 43,8% des voix contre 32,9% pour l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, Ashraf Ghani. Le président de la commission, Ahmad Youssoufi Nouristani, a précisé que près de 83% des votes ont été comptés et qu'un second tour est fort probable. Les résultats définitifs devraient être publiés le 14 mai.
D'autre part, à Kaboul, un policier afghan a ouvert le feu aujourd'hui dans un hôpital, tuant 3 médecins américains. L'hôpital est géré par l'ONG américaine Cure International. Après l'attaque, l'agresseur a retourné son arme contre lui-même, a indiqué l'hôpital qu'il a soigné avant de le remettre à la police.
Et l'armée pakistanaise a bombardé la région tribale de Khyber, tuant au moins 37 militants présumés. Selon des sources militaires, les frappes de ce matin font suite à des informations indiquant que les terroristes impliqués dans les récentes attaques au Pakistan avaient trouvé refuge dans cette zone du nord-ouest. La nouvelle n'a pas été confirmée de sources indépendantes.
Voilà pour le journal, 18h42 en temps universel, 14h42 à Washington, chez Robin Dorsil en compagnie de Nathalie Barge. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, 24 ans déjà que le maréchal Mobutu a prononcé son discours sur la démocratisation du pays. Le principal groupe d'opposition congolais, l'Union pour la démocratie et le progrès social, en a profité ce jeudi pour critiquer le régime actuel du président Kabila. Une sortie faite, il faut le dire, sans le leader historique du parti, Étienne Tshisekedi, qui est malade. Nicolas Pineau a joint le chargé des relations extérieures de l'UDPS, qui n'est autre que Félix Tshisekedi, son fils.
À propos de sa santé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, sinon il ne serait pas à sa résidence, il serait plutôt à l'hôpital. Donc... Il va bien, il récupère de la période de repos qu'on lui a prescrit par les médecins, et voilà, donc ça va.
Que pensez-vous d'une possible candidature de Joseph Kabila en 2016 ?
Chez nous, nous ne l'envisageons même pas, et nous lui conseillons vraiment de s'inspirer de l'histoire à la fois du Congo et du monde. Il y a des dictateurs qui ont quitté leur poste par la petite porte, parce qu'ils ont voulu s'éterniser au pouvoir, d'autres sont partis, en se voyant grandi, en se rachetant de leur passé nébuleux. Et donc, je l'invite simplement à s'inspirer de l'histoire des uns et des autres.
Est-ce que, contrairement en 2011, l'opposition ne devrait pas se présenter avec un candidat unique ?
Je ne crois pas que ce soit là le problème. Vous voyez bien, je vous avais parlé de 2011 et de la victoire d'Étienne Tshisekedi. Nous nous étions pourtant présentés en ordre dispersé. Je vous ai dit, la situation du Congo va être très très mal, très mauvaise, et on a l'impression que le Congo est un navire sans capitaine. Pourtant, il prétend avoir gagné les élections. Donc vous voyez que, de part et d'autre, il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas l'effectivité du pouvoir.
Est-ce que le renouvellement des générations est une question taboue à l'UDPS ?
Non, pas du tout. Malgré son âge, Étienne Tshisekedi est un leader qui a traversé, qui a transcendé, j'allais dire, les générations. Remarquez, lors de sa campagne électorale en 2011, la majorité de ceux qui étaient dans la foule, c'était des jeunes dont l'âge oscillait entre 18 et 25 ans. Donc des gens qui n'étaient pas nés du tout lorsque son combat avait commencé. Donc c'est vous dire que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de charisme, une question de crédibilité. Et Étienne Tshisekedi incarne cet espoir qu'a les Congolais dans un monde meilleur.
On vous présente comme l'héritier de ce parti. Quel est votre avenir au sein de l'UDPS?
Mon avenir sera celui que me désigneront à la fois le Congrès, la direction politique qui sera aux affaires. Je ne suis pas l'héritier désigné, contrairement à ceux que racontent les mauvaises langues. Je suis, comme tous ceux qui ont adopté le discours et les pensées d'Étienne Tshisekedi, un Tshisekediste. Après Tshisekedi, il y en aura des milliers et des millions qui ne seront pas forcément à la tête du parti, mais en tout cas qui seront au Congo et qui se battront pour que les idées et le combat d'Étienne Tshisekedi ne restent pas lettre morte.
Voilà, Félix Tshisekedi, que Nicolas Pineau a joint à Kinshasa.
En proie à des accidents de la circulation, le Togo opte pour la circulation alternée. Les véhicules poids lourds, semi-remorques et autocars de plus de 15 places sont désormais interdits de circulation entre 18h30 et 5h du matin. Ces mesures annoncées par le gouvernement togolais visent bien sûr à limiter le taux de mortalité sur les routes. Le reportage de Kailo Sonat Alomé.
L'un des maux qui mine le Togo est le non-respect du code de la route. L'excès de vitesse, le viol des feux tricolores et la surcharge sont devenus les règles de la circulation routière dans le pays. Et la première conséquence est l'augmentation des accidents avec son cortège de décès. Entre janvier et le 18 avril 2014, les routes togolaises ont fait 224 morts. Pour une population de 6 millions d'habitants, c'est déjà trop. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est un accident survenu dans la nuit du lundi 14 avril dernier, faisant 48 morts. Le gouvernement annonce des mesures pour arrêter l'hémorragie. Nissao Nyonfam, ministre togolais des Transports.
L'une des mesures, c'est que les contrôles reprennent systématiquement tout de suite, et à commencer par celle-là qui consiste à interdire la circulation de nuit. Désormais, il sera formellement interdit de prendre le volant à partir de 18h30 jusqu'à 5h du matin, il n'y aura plus de circulation sur nos routes. Et l'application de la disposition qui interdit le transport mixte, c'est-à-dire marchandises avec personnes à bord d'un même véhicule.
La Fédération togolaise pour la sécurité routière salue ces mesures mais exige leur réelle application. Adam Atassa, président de la FETOSER.
On parle de contrôle. Que le contrôle soit vraiment effectif, que ce soit quelque chose de sérieux. Par exemple, quelqu'un a fait surcharge, au lieu de 6 personnes, on met 8 personnes. Mais la loi dit qu'il faut interrompre, cesser l'infraction. Non pas réprimander la personne puis la laisser partir. Non, vous arrêtez, vous descendez le surplus et vous faites partir. Comme ça, les passagers aussi sauront que s'ils vont quelque part pour prendre un véhicule, si le véhicule est plein et qu'ils montent quand même, ils ont le risque de se voir descendre en chemin.
Quant aux conducteurs, ils craignent des comportements indélicats de la part de ceux qui doivent faire les contrôles. Essiba Orumonvi, secrétaire général du syndicat des professionnels routiers du Togo, Siproto.
La route est devenue un point d'enrichissement illicite de certains agents que peut-être certains peuvent traiter de véreux.
Sur une probable dérive des agents de l'ordre, voici ce que répond le ministre de la Sécurité, Yak Damhan.
Nous avons préparé, nous avons formé des agents qui vont assurer ce contrôle et qui appliqueront les tests dans toute leur rigueur.
Kailosan Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Désormais, les conseils des ministres au Bénin se tiendront en rotation dans les différents départements du pays. C'est la dernière trouvaille du gouvernement béninois pour rapprocher le pouvoir des populations. Alors, astuces politiques ou initiatives propices au développement? Les Béninois s'interrogent. Voici le reportage de Peggy Ludovic Dagba.
La réunion hebdomadaire des ministres ne se tiendra plus entre les quatre murs de la feutrée salle richement décorée du palais de la Marina. Le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 14 avril dernier, en a décidé autrement. Le Conseil des ministres aura désormais lieu de façon tournante dans les chefs-lieux des 12 départements du Bénin. Une décision qui suscite diverses réactions chez les Béninois. Approbation et désapprobation se disputent la vedette dans leur rang. Ella Djagarba, transporteur à Cotonou, salue la décision.
Ce Conseil des ministres, sûr et certain, va se dérouler dans une infrastructure hôtelière. Cette infrastructure va tourner aujourd'hui et c'est un plus qu'on apporte à ce département. Moi, je dis que c'est une bonne chose parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est à travers les médias, ils entendent des choses. Et aujourd'hui, ils voient auprès d'eux ce conseil tenir. C'est une décentralisation de l'événement.
David Donsou, coordonnateur des jeunes du 13e arrondissement de Cotonou pour le regroupement des partis politiques de l'Union fait la nation, pense tout le contraire. Pour lui, le peuple a d'autres chats à fouetter.
Quels sont les motifs réels de cette décision du chef de l'État? Quelles sont les conséquences que peuvent entraîner ce genre de décision? Ce sont tant de questions que se posent nos populations en cette période où l'on traverse une situation de crise répétée presque dans tous les secteurs. La crise énergétique qui crée pas mal de dommages aux populations. Les grèves perlées qui déchirent nos écoles, pour ne citer que ceux-là. À l'occasion, les dossiers sensibles de l'État seront déplacés vers les chefs de département. Les risques liés à ces déplacements-là et les frais de mission exorbitants qu'engendre cette décision. Le déplacement des services traiteurs et tout le risque qui l'entoure, sans oublier le coût total de l'opération et à chaque semaine. Vraiment, il y a plus sérieux à faire aujourd'hui dans mon pays que ces scènes de distraction qui n'apporteront rien à la population. Que les conseillers du Pierre essaient de lui dire la vérité. La jeunesse en a marre.
Quel profit les communautés à la base pourront-elles tirer des décisions qui seront prises au cours de ces conseils des ministres tournant? Question en suspens. Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
On revient sur l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. La souche du virus qui touche la Guinée et le Libéria est inconnue des spécialistes. C'est ce que révèle une étude publiée hier dans la revue New England Journal of Medicine. Selon cette étude, la souche présente en Afrique de l'Ouest ne provient d'aucun foyer d'infection connu en Afrique. Cela pose la question de l'origine de ce virus qui s'est propagé de la Guinée forestière au sud vers la capitale Conakry. Idriss Fall a joint Tariq Jazarevic de l'OMS à Genève.
Nous avons enregistré 219 cas, dont 139 décès. De ces 219 cas, 115 ont été confirmés par les tests de laboratoire. Le Libéria, c'est le seul autre pays qui a les cas confirmés. Au Libéria, donc, il y avait 6 cas confirmés par le test laboratoire, mais au total, il y avait 34 cas avec 11 décès.
Et qu'est-ce qui est fait pour contenir la maladie alors?
Pour chaque épidémie d'Ebola, il y a un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place pour essayer d'arrêter la propagation du virus, de mettre en place la prise en charge des malades, d'avoir des centres d'isolement où les malades seront traités pour qu'ils ne puissent pas présenter un danger pour les travailleurs de santé et les autres malades dans les hôpitaux, de mettre en place le contrôle de l'infection, prévention de l'infection, les travailleurs dans les hôpitaux puissent reconnaître et puissent trier ceux qui présentent des symptômes, que leur apporter des soins d'une manière qui ne les met pas en danger. Un suivi des contacts, les gens qui ont été en contact avec les gens malades. Il s'agit aussi d'avoir des capacités de laboratoire pour pouvoir tester rapidement tous les cas suspects, travailler sur l'information et la communication, puisque c'est la première fois que la Guinée fait face à cette maladie, donc il faut vraiment un effort pour éduquer et non seulement les travailleurs de santé, mais l'ensemble de la population pour qu'ils puissent se protéger.
Mais on nous dit qu'il y a des cas qui ont pu guérir de l'Ebola.
Mais bien sûr, il y a des gens qui vont survivre. Donc, ce n'est pas une fatalité d'être infecté d'Ebola. Actuellement, le taux de mortalité se situe autour de 63%. Donc, un tiers des personnes qui sont infectées vont survivre. Et même si on n'a pas un traitement spécifique pour Ebola, une prise à charge précoce vraiment peut augmenter la chance de survie. Parce qu'une personne qui est atteinte d'Ebola va avoir des vomissements, la diarrhée, des saignements. Et donc, une prise en charge appropriée dans les centres d'isolement augmente les chances de survie.
C'était Tariq Jazarevic de l'OMS.
Sans transition, les sports. Nicolas Pino, bonsoir.
Bonsoir, chérubin.
Football, demi-finale de la Ligue Europa.
Carlos Tevez est finalement apte. L'attaquant argentin de la Juventus de Turin est titulaire pour la demi-finale aller à Lisbonne face au Benfica. Benfica tout juste sacré champion du Portugal ce week-end. Ça fait plus de 50 ans, chérubin, qu'une nouvelle coupe européenne n'est pas venue garnir le palmarès du club. Du côté de la Juventus, aucun trophée européen depuis la Supercoupe de 97. L'autre demi-finale opposera les Espagnols du FC Séville à ceux du FC Valence. Dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, le Malien Seydou Keita, qui joue avec Valence, a même déclaré pouvoir jouer jusqu'à 40 ans. Bon, pour le moment, il a encore de la marge, hein, puisqu'il en a 34.
Oui, la NBA, championnat de basket nord-américain, suite des playoffs.
Et San Antonio qui est passé à côté de son match. Défaite 92-113 contre Dallas. Un partout dans la série entre les deux équipes, dans le duel évidemment texan. Et puis de son côté, à l'ouest, Portland a remporté un deuxième succès sur le parquet de Houston, 105-112. Enfin, Miami s'impose face à Charlotte, 101-97, et mène également 2-0 dans la série.
On ne peut pas toujours gagner. Go Spurs!
Vous écoutez La Voix de l'Amérique en direct de Washington et à présent la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Salut Nathalie. Alors le musicien Basekou Kouyaté est parmi les gagnants du concours musical organisé par The Songline Music Awards, un magazine, n'est-ce pas, basé à Londres et qui récompense les meilleurs artistes de world music. Je vous propose ce soir Nathalie et bien sûr Gabi qui est à côté de moi, qui me regarde déjà, je vois. Allez-y. Djamana B. Dia.
Il y a d'autres vainqueurs, n'est-ce pas, du Songline Music Awards 2014, notamment, dites-moi si je le prononce correctement, hein, Tammy Crest, Catherine Finch, Sekou Keita et Family Atlantica.
Oui, Nathalie, et pour l'artiste Basekou Kouyaté, c'était une journée inoubliable. Ce joueur d'Ongoni, un instrument traditionnel, hein, a gagné ce prix grâce à son album Djamako. Et c'est un album qui cartonne en ce moment, Nathalie, à Bamako, en Europe aussi. Vraiment trop de la bonne musique.
Oui, une musique qu'on passe de temps en temps. Exactement. Sur La Voix de l'Amérique.
Mais bien sûr, comme toujours. Et tu vois que si Gabi est en train de bouger comme ça, c'est de la bonne musique, nous.
Bon, je peux vous montrer comment on danserait ça en Haïti.
Oh ben non, mais...
Il n'y a pas de caméra,
ça,
hein.
Ça, je veux voir. Est-ce que tu peux le montrer? Vas-y.
Mais il n'y a pas de caméra.
Mais il n'y a pas de problème, moi, je...
C'est l'expression du visage aussi.
Exactement. Voilà.
Vaut mieux écouter la musique.
Voilà, ben écoutons la musique.
Sirana kelenya kele mani kele debi jamana dumambaluchi Angabewo nadumbena jamana bedia Thank you.
bien laissé bercer par Bassekou Kouyaté, Djamana Bédia. Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nathalie.
Roger Mountou, que vous retrouvez dans le RM Show à 20h, temps universel tous les jours.
Et c'est déjà la fin de cette édition qui a été mise en onde par Michel Joseph, avec l'assistance technique de Tian Wang. Thank you, Tian. N'oubliez pas de nous laisser vos messages sur notre page Facebook. C'était chez Robin Dorsil.
Et Nathalie Barge, bonsoir.
On se retrouve dans une demi-heure.